découvrir. Vous êtes notre invité ce soir, François Rouillet, donc à la faveur de la parution aux éditions La Talente, en deux volumes d'un seul roman, qui est donc Métakine, 871 pages pour évoquer l'apocalypse, on peut le dire, liée à la commercialisation, à la consommation d'un psychotrope. On va voir avec vous de quoi il s'agit, mais on va d'abord présenter à nos auditeurs Jean-Luc Rivera, François Rouillet, puisqu'il est mauvais genre à tout point de vue, non pas parce que vous êtes vaudois et pharmacien, mais quoique, on ne sait jamais, tout est possible, mais parce que vous êtes quand même un des présidents, premier président, soutien de la maison d'ailleurs d'Yverdon, donc qui est un haut lieu de l'imaginaire suisse, que vous êtes dessinateur, donc dessinateur dans un univers proche de la fantasy et de la science-fiction, et puis Jean-Luc Rivera, François Rouillet, a écrit dès 2002 un livre pour lequel il aurait pu être notre invité, mais enfin, on sait jamais trop tard, donc qui s'appelle Stup et fiction.
Effectivement, François Rouillet a publié un livre qui s'appelle Stupéfiction, drogue et toxicomanie dans la science-fiction, où il étudie un grand nombre non seulement de textes de la littérature, mais aussi passe en revue les BD et les films de science-fiction, et il étudie toutes les drogues qui ont pu être utilisées dans la fiction, qu'elles soient d'ailleurs réelles ou imaginaires. Donc c'est vraiment un magnifique ouvrage d'anthologie, et puis en tant que grand spécialiste de la science-fiction en général, il a publié aussi un ouvrage tout à fait passionnant qui s'intitule « 100 mots pour voyager en science-fiction aux empêcheurs de penser en rond », il y a une dizaine d'années à peu près, et qui est vraiment l'ouvrage essentiel pour se mettre les idées en place.
François Rouillet, donc en France, on connaît Stéphane Vull, qui était dentiste et auteur de science-fiction, André Rebellin, qui a une formation de médecin et qui après, ça l'a pas empêché, et bien au contraire, d'écrire dans Angoisse fleuve noir. Vous, comment articulez-vous la pratique de la pharmacie, puisque vous êtes toujours pharmacien, vous avez une échoppe,
je travaille à la fois dans le public et dans le privé. Donc en hôpital et en officine, pour parler un autre langage, mais avec la pharmacie et mon métier, on va peut-être s'arrêter là, parce que j'ai d'abord été amateur de science-fiction. Ma grand-mère, qui avait conservé des dessins de ma toute petite enfance, un des tout premiers, c'était les animaux dans la lune. Donc l'amateur de science-fiction a précédé le pharmacien.
Et donc cet amateur de science-fiction, il s'est développé conjointement avec le scientifique. Et comment les deux rails ont-elles un peu joué l'une par rapport à l'autre, dans un parallélisme absolu, ou est-ce que des fois il y avait des aiguillages possibles?
Oui, alors bien sûr, il y a eu des points de rencontre entre la science que j'apprenais à l'université, que je pratiquais ensuite dans mon métier, et puis la science aussi à laquelle je m'intéressais et qui m'intéresse toujours par le biais de revues de vulgarisation, d'ouvrages généraux. Donc le domaine scientifique me passionne. Après, la fiction s'articule avec cette autre direction, cet autre axe, dans le sens où c'est comme si toujours, quand j'imagine quelque chose et que j'ai envie de le mettre sur le papier sous forme de dessin ou sous forme de texte, il y a comme une exigence de véracité ou de vraisemblance, en tout cas. Il y a toujours un lien, un fil à la patte, dans le bon sens du terme, qui me relie au réel et au présent. Et c'est dans mon roman, par exemple, Métakine, même les choses les plus déjantées que je raconte ont toujours, quelque part, un pied dans une certaine réalité ou possibilité scientifique.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, on peut dire que même s'il n'en a pas le côté lourd, on est du côté de la hard science.
Avec Métakine, donc.
Ce terme qui recouvrait une science-fiction basée sur des faits. Et c'est très agréable de voir que c'est de la hard science lisible, parce que parfois, certains ouvrages du genre étaient, et il y en a que j'ai adoré, je pense à Cryptonomicon de Neil Stephenson, où les formules mathématiques qui duraient 4 pages me passaient un peu au-dessus de la tête. Là, on est dans du totalement lisible, mais on a l'impression, soyons clairs, on a l'impression que l'histoire est vraie. D'ailleurs, la maison d'édition a eu l'intelligence de montrer un médicament, de dire que l'usage en était possible et tout. Et moi, je me suis demandé si je pouvais commander de la méthaquine à mon pharmacien. Et puis, en cours de route, j'ai découvert que c'était un livre.
Oui, François Rouillet, parce qu'en effet, il y a ces deux énormes tomes pour lesquels vous êtes avec nous ce soir. Mais tout autour, il y a donc effectivement un site que vous avez mis en place avec l'aide de la Talente et qui permet d'aller à la rencontre de la méthaquine comme si c'était un produit consommable, un produit disponible et un produit analysable, donc que vous nous présentez en jouant un peu à la fois avec ce qu'il est dans le roman et puis, dirons-nous, ses cousins germains un peu, eux bien réels.
Alors oui, ça part d'une démarche qui est, comme je suis également illustrateur, et que durant toutes ces années où j'ai écrit le livre, le dessinateur a dû se tenir un peu à carreau. Tout à coup, il a demandé d'être un peu compensé, d'avoir la possibilité de s'exprimer aussi. Et j'ai quand même commencé à dessiner toute une iconographie autour de méthaquine. Et je me suis dit, c'est dommage de pas la montrer. D'où le site. D'où la possibilité de continuer l'univers de méthaquine dans un domaine plutôt graphique.
Enfin, le site va très loin, puisqu'il y a quand même ce qu'on appelle le packaging. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il suffit d'envoyer le PayPal et c'est réglé, quoi.
Alors voilà, ça c'était un peu la plaisanterie de la. C'est que avant que sorte le roman, je me suis amusé à pondre une lettre. Je l'ai envoyé à un certain nombre de journalistes ou de confrères ou de personnes de ma connaissance et qui disaient en gros la maison Globantis Pharma, la firme qui produit la méthaquine, tient à se positionner face aux rumeurs qui circulent dans la presse que son médicament a quand même des vertus qui sont basées sur la réalité, etc. Et que donc en fait c'était une sorte de deuxième degré sur que dirait le fabricant de méthaquine pour défendre son produit face à des journalistes hargneux et dubitatifs quant aux vertus de son médicament.
Jean-Luc
Rivera. Et ça a tellement bien marché que des confrères se sont laissés avoir, oui. et ont menacé de porter plainte auprès de l'Office fédéral du médicament. Une mère de famille et journaliste aussi m'a dit, mais quand j'ai reçu cette lettre, j'ai pensé à mon fils qui était très agité à l'école, et il a dit ça y est, l'industrie a réussi à mettre son pied jusque dans les écoles et ils vont passer mon fils à ce traitement par le biais du médicament du médecin scolaire, etc. Il faut que je réagisse, il faut que j'aille trouver la direction, etc.
Oui, parce que fort malicieusement vous faisiez jouer des effets de réel, voilà. Assez redoutables. Il y avait un très beau logo, il y avait le copyright, il y avait justement une évocation de la méthaquine en lien avec d'autres, la Ritaline ou la kétamine, donc on sentait qu'il y avait une volonté justement de créer une illusion. Jean-Luc Rivera.
Et puis ça s'insère juste en plein dans le grand débat qu'il y a en particulier aux États-Unis sur l'hyperactivité des enfants, où des enfants aujourd'hui qu'on aurait considérés avant simplement comme des gamins qui avaient besoin de pouvoir courir un petit peu, etc. Aujourd'hui, on trouve immédiatement qu'ils sont hyperactifs à partir du moment où ils se trémoussent sur leur siège pendant qu'ils écoutent la maîtresse d'école, etc. Donc vraiment, vous vous insérez totalement dans le débat actuel, et c'est ça qui est l'une des grandes forces du roman, parce que la méthaquine, on en servira peut-être un de ces jours à nos enfants.
Voilà, alors c'est clair qu'il y a dans la méthaquine des allusions, des parentés avec certains médicaments qui sont bel et bien commercialisés.
Das ist mein Brot.
psychotrope sonore sorti du laboratoire de Laurent Polleret, disponible également sur l'antenne, sur le site de France Culture. Alors on va parler de cette métaquine, François Rouillet, puisque elle est au cœur même du roman, puisque c'est l'éponyme. C'est un psychotrope. Comment on peut la définir déjà, puisque donc c'est un.
Alors à la base, il s'agit d'un médicament qui est distribué, qui est administré, prescrit aux enfants un peu agités à l'école. On peut faire un parallèle évident avec l'hyperactivité dont on parlait tout à l'heure et avec la Ritaline, le médicament qui est plus souvent prescrit pour cela. Mais je tiens bien à préciser que le roman n'est pas le procès de la Ritaline déguisée, mais parce que finalement je pense que ce médicament a sa place lorsqu'il est bien cadré dans certaines pathologies sur des thérapies courtes, c'est du moins ce que la littérature scientifique approuve. Au-delà, lorsqu'on commence à prescrire ce médicament pour toutes sortes de pathologies, toutes sortes de troubles ou toutes sortes de phénomènes d'inadaptation ou d'inattention ou autre, je pense qu'on sort du cadre strictement scientifique et raisonnable. Donc ça, c'est vrai, il y a une parenté avec la Ritaline. Il y a une parenté avec une autre molécule par ses effets sur le psychisme aussi, c'est la kétamine. Et là, il y a une anecdote assez amusante à raconter, c'est que un matin, un peu comme Marie Shelley après la nuit de Frankenstein, je me suis réveillé le matin en disant « Ah, j'ai trouvé un titre intéressant pour mon roman, je vais appeler ça « Métakine ». Et la première version, il y avait un K, Métakine avec K. Et quelques jours après, je me suis aperçu que c'était l'exact anagramme de kétamine. Et la kétamine est une substance chimique utilisée comme anesthésique générale.
Couteau suisse biochimique, vous
voilà,
écrivez.
Voilà, tout à fait. C'est une molécule qui a des propriétés assez étonnantes. Elle reverse certains troubles dépressifs graves. Elle aide des patients qui ne sont plus sensibles à l'action des opiacés. Elle a aussi une action hallucinogène. Et on lui prête des vertus qui provoquent chez ceux qui la consomment des effets un peu comparables à ces fameuses expériences au voisinage de la mort où le corps se dissocie de l'esprit, etc. Donc c'est une molécule tout à fait intéressante. Et une autre anecdote très amusante, c'est qu'il y a quelques années, quand j'étais en pleine rédaction de Métakine, je fais dire à un des personnages, un des représentants, des dirigeants de la firme Globantis Pharma, je lui fais raconter un peu les effets, les vertus du médicament. Et là, je parle de métakine et pas de kétamine, mais pour la petite histoire, je lui fais dire, voilà, ben la métakine, on l'a administrée à des souris qu'on avait rendues artificiellement stressées, et miraculeusement, les souris ont cessé d'être stressées, se sont comportées normalement, ont retrouvé les réflexes utiles à la survie en face du danger, etc. Et ça, c'était il y a 3-4 ans en arrière, je ne sais plus exactement, j'avais fait des dessins aussi accompagnant cette partie du roman. Et l'année passée, en fin d'année 2015, il est sorti une étude américaine à propos de la kétamine, cette fois-ci, qui ont rendu des souris artificiellement stressées et qui ont montré que la kétamine supprimait le stress chez ces souris. Donc c'est amusant de voir que lorsqu'on colle à la réalité scientifique, lorsqu'on écrit un roman, on est parfois rattrapé.
Alors, vous donnez, il y a des moments où vous donnez donc une définition, une sorte de définition précise, scientifique et même publicitaire de la métakine. Alors, la métakine se profile comme un super stabilisateur. Partout où elle intervient, elle exerce un contrôle, un équilibre. Elle s'oppose au stress, aux sollicitations répétées ou trop vives. Elle fait baisser la tension. C'est le graal des pharmacologues. Le yin et le yang en pilule. Non, je t'ai plus lit, tu nous as convaincus. Donc, c'est des méditations pendant un conseil d'administration. La métakine, la drogue qui transforme les garnements hyperactifs en chérubin zélé, le traitement souverain de l'inadaptation scolaire, du déficit d'attention, de l'indiscipline chronique, l'arme ultime des mères et des institutrices à bout de nerfs. Alors quel a été le projet premier central, François Rouillet, avec cette métakine de plus de 850 pages? Qu'est-ce que vous vouliez faire à la fois faire œuvre pie en justement faisant le procès d'une certaine pharmacopée, d'une certaine industrie pharmaceutique mondiale? Est-ce que vous vouliez en même temps être un peu un donneur d'alerte, je dirais, en science-fiction? Alors, Parce qu'on a l'impression à vous lire, parce que vous mettez en scène donc ce produit qui est au cœur du roman, il y a à la fois ceux qui en organisent la fabrication, l'expérimentation et la commercialisation, donc ça c'est Globantis Pharma, il y a à côté ceux qui au contraire sont là, les donneurs d'alerte pour prévenir la population que, ma foi, il faut plutôt se méfier, puis il y a un monde un peu intermédiaire, puisqu'on est dans une dystopie de gens qui pourraient être des victimes ou des futurs cobayes pour la métaquine. Donc quelle est l'idée de base et quel est le projet général ?
Le projet, je crois que c'est de suivre un médicament et toute la mythologie qui se développe autour du médicament. C'est-à-dire que vous avez bien sûr une industrie et des promoteurs du produit qui essayent de vendre leur drogue et de montrer des qualités, que d'exagérer éventuellement ces qualités dans un but publicitaire, et puis de faire le bonheur des actionnaires et de répandre ce médicament sur le plus possible de patients et le plus possible de pathologies. Ça, c'est vrai que cette tendance existe dans l'économie mondiale, on la voit incontestablement. Mais, cela dit, il y a en face une population, des gens qui attendent le médicament miracle. Et toute la confiance, tous les espoirs que l'on place dans le médicament, eh bien, il est aussi de ce côté-là. Il y a une offre et une demande. Donc, j'ai vraiment voulu analyser le phénomène sous les deux angles. L'offre de l'industrie et l'immense besoin de la population d'avoir une panacée.
C'est ça, c'est justement ce concept de panacée, de croyance en l'existence d'une panacée. Jean-Pierre Dionnet.
Oui, d'abord, je pensais à la Suisse, où on est français, où on est des grands consommateurs d'anxiolytiques. Je crois qu'on est les numéros 1 au monde. Et hier, j'écoutais la bourse et ça m'a fait bizarre parce qu'entre une société maudite et une autre, Monsanto montait très fort puisqu'ils vont être rachetés par Bayer, qui est plus petit mais qui n'a pas les fonds. Et on ne parlait pas de Monsanto, la firme maudite qui fait des germes, etc. On parlait juste d'affaires. On disait achetez du Monsanto et vendez vos Bayer. Donc quelque part, dans le monde réel, en boursicotant, on disait, on en parlait comme un moyen de faire de l'argent en tant que boursier. Acheter Monsanto, qui pour moi veut dire les fameuses graines qui ne se reproduisent pas et tout, alors que Bayer me semblait blanc-bleu. Ben, je découvre que non. Comme quoi, vous êtes rattrapé par le réel.
Aussi sur ce plan-là, peut-être aussi.